Je lis avec vous dans l'Évangile selon Luc, à partir du verset 9 du chapitre 18, une parabole de Jésus. Jésus dit encore la parabole que voici à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Et voici le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, celui-ci redescendit chez lui, justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Les périodes de crise sociale comme celle que nous connaissons, avec leurs expressions d'inquiétude, d'angoisse, de mécontentement, de colère, de revendication, d'explication, ces périodes sont révélatrices de ce qui agite le cœur des humains. Les flots tumultueux charrient les objets les plus divers, les pensées, les sentiments, les mentalités, les comportements les plus contrastés. Modelés par l'effet de foule, amplifiés par le mégaphone des médias, toutes sortes de manifestations, d'expressions, de paroles et de cris envahissent notre espace et nous atteignent avec force. Sans entrer, bien entendu, dans l'analyse des arguments en présence, je voudrais porter mon attention ce matin sur le face-à-face des personnes. Comment chacun considère-t-il l'autre? Que nous enseigne la Bible sur les relations humaines au sein de la société? Notre enquête nous conduira à mettre en lumière ce qui caractérise les relations humaines dans l'intention du Créateur, ce que le péché a introduit dans le cœur de l'être humain, et ce que la transformation du cœur par la grâce produit chez ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. D'abord donc, l'intention du Créateur. Pour la repérer, nous ne commencerons pas au livre de la Genèse, nous allons y venir dans un instant, mais nous allons aller directement à la loi du Sinaï, les lois et les préceptes que Dieu a énoncés pour son peuple. Dans Exode 20, où nous avons les 10 commandements, nous avons, par exemple, ce commandement « Honore ton père et ta mère » et ajoute le texte « Afin que tes jours se prolongent dans le pays ». Texte repris dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans cette lettre aux Éphésiens, il ajoute encore quelques éléments. Comme parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant. Nous savons que nous allons à peu près chaque fois rencontrer des préceptes positifs et des préceptes négatifs, parce que nous sommes évidemment après la chute. Premières relations humaines, celles qui se vivent dans la famille. Dans Exode 21, le chapitre suivant, celui des 10 commandements, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Aspect positif, aspect négatif. Premier précepte donc, le respect, que nous retrouvons très fréquemment dans beaucoup de textes, nous en citerons encore un certain nombre. Première dégradation, la rupture, bien sûr, au jardin d'Éden. Je voudrais juste relever à cet endroit la première prise de distance. Après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre dont Dieu leur avait dit de ne pas en manger, Dieu vient dans le jardin et il appelle l'homme et la femme. Il les appelle. Et il demande à Adam, pourquoi as-tu fait cela ? Et quelle est la parole d'Adam ? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Ça, c'est la deuxième parole d'Adam, parce que la première était beaucoup plus positive. La première, c'est lorsque Dieu a amené Ève, sa femme, vers lui et qu'il s'est émerveillé en disant, voilà, enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Deuxième parole, la femme que tu as mise auprès de moi, dit-il à Dieu, m'en a donné de ce fruit défendu et j'en ai mangé. Dieu se tourne alors vers Ève et lui dit aussi, pourquoi as-tu mangé de ce fruit défendu ? Et elle répond, c'est le serpent qui m'a tenté et j'en ai mangé. Première distanciation de la parole qui montre que l'autre n'est plus celui qui était avec moi, tout près de moi, mon vis-à-vis, mais celui vers qui je rejette la responsabilité de ce que je viens de faire. Première dégradation. Et très vite, bien sûr, cette dégradation devient terrible. C'est le mépris, c'est la jalousie, c'est la haine entre Caïn et Abel et le meurtre d'Abel par Caïn. Il est dit très rapidement que la méchanceté des hommes est devenue immense sur la terre, que leurs pensées se portaient chaque jour essentiellement, uniquement, vers le mal. La terre a été remplie de violence. La dégradation a été très rapide. Encore quelques citations, toujours d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, nous lisons « Tu n'insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Tu n'insulteras pas ou tu ne manqueras pas de respect à l'égard de Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. » Dans le livre du Lévitique, nous avons « Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu respecteras ton Dieu. » Nous lisons encore, « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme un des vôtres, tu l'aimeras comme toi-même. » Respect, considération pour l'étranger, voilà les préceptes qui sont donnés dès les premières paroles que Dieu adresse à son peuple pour structurer sa vie et pour l'orienter dans ce qui est la volonté de Dieu. Là, ce sont les lois et les préceptes. Mais ces lois et ces préceptes qui sont destinés à conduire le peuple dans sa vie sont épaulés par la sagesse. Et nous avons donc aussi des éléments de ce que nous considérons comme les lois de Dieu appliquées dans les livres de la sagesse. Nous avons déjà cité ce commandement, « Honore ton père et ta mère », et il est dit que c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et nous ajoutons donc cet élément dans les livres de la sagesse et aussi dans les citations du Nouveau Testament pour dire que non seulement la loi de Dieu exprime la volonté de Dieu, mais elle exprime aussi la bonté de Dieu, puisque c'est pour que le peuple soit heureux et qu'il prolonge ses jours dans le pays que Dieu va leur donner, qu'il leur donne cette instruction. Honore ton père et ta mère. Nous avons vu donc les préceptes positifs et les préceptes négatifs. Il nous faut aussi considérer, dans la réalité humaine, le mélange des deux. Le mélange des comportements, l'hypocrisie, la duplicité. Je trouve dans le psaume 62 cette parole, « De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. » Parole reprise par l'apôtre Jacques lorsqu'il parle de la langue. La langue est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir de la même source par la même ouverture? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit l'apôtre Jacques. Il convient donc de porter un regard lucide, objectif, honnête, sur soi-même. Examinez-vous vous-même, dit aussi le texte de l'Écriture. Voilà quelque chose qui devient un peu compliqué parce que nous pouvons en effet, suivant les temps, les circonstances, tel ou tel élément qui intervient, arriver à ce genre de contradiction. Encore quelques paroles dans les livres de la sagesse, dans l'Ecclésiaste en particulier. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit de toi. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Et faisant écho à ces paroles, nous sommes amenés, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, à considérer que nous pouvons, à certains moments de notre vie, être dans des paroles contradictoires. Celles qui viennent rapidement, suivant le temps et les circonstances, celles en particulier qui nous envahissent lorsque nous sommes vivement contrariés ou en colère, et puis celles que nous pouvons prononcer en étant plus apaisés, plus réfléchis et plus attentifs aux autres. Toujours dans l'Ecclésiaste, ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais du mal des puissants, même dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Je ne vais pas faire d'application à l'actualité, mais enfin, vous voyez la sagesse de l'Écriture. C'est l'oiseau ailé à l'époque qui pouvait récupérer tes paroles prononcées dans ta chambre à coucher. Maintenant, c'est Internet, c'est les photos, c'est les commentaires qu'on envoie sur les réseaux sociaux. L'oiseau ailé emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Sagesse, humilité et lucidité sur nous-mêmes sont des vertus indispensables. Lorsque elle ne se trouve pas dans le plus grand nombre des êtres humains, de nos contemporains, nous sommes évidemment dans les signes d'une société assez dégradée, où ce qui apparaît davantage, c'est le mépris que le respect. Le respect dans tous les sens du terme. Nous le voyons aussi déjà du temps de l'Écriture, ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Les chefs du peuple, vous savez ce qu'ils disaient du peuple, ce qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Ces gens qui ne connaissent pas la loi, ce sont des maudits. Et ceux qui disaient cela, c'était des spécialistes de la loi. Ils oubliaient que de temps en temps, eux non plus, ne connaissaient pas la loi. Oui, nous sommes dans ce contexte-là. Encore une parole dans le livre des Proverbes, qui méprise son prochain manque de sagesse, qui méprise son prochain commet un péché. Et lorsque on avance vers la fin de l'Ancien Testament, et lorsque on arrive dans une période où le peuple d'Israël a été coupé en deux, dispersé, amené en captivité, etc., nous avons dans le livre d'Ézéchiel une parole qui décrit aussi une situation très dégradée. Chez toi, dit le prophète Ézéchiel, on méprise père et mère. Chez toi, on maltraite l'étranger. On y opprime l'orphelin et la veuve. On méprise ce qui est saint. On calomnie le prochain. Voilà un portrait bien difficile. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament pour voir un peu ce qu'il nous enseigne d'abord Jésus et les apôtres. En leur temps, donc quelques siècles plus tard, la société est cloisonnée. Elle est formée de groupes, de castes, qui n'ont pas beaucoup, souvent, de considération les uns pour les autres. Et c'est là qu'on trouve la parole que j'ai citée il y a un instant, que je reprends, dans l'Évangile selon Jean, et qu'il est question du débat entre les chefs du peuple, ceux qu'ils ont envoyés pour appréhender Jésus, et ceux qui reviennent pour dire pourquoi ils n'ont pas ramené Jésus selon ce qu'on leur avait demandé de faire. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors ils ont fait reprendre par les chefs du peuple, et c'est, je crois bien, dans ce contexte-là qu'ils ont dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont tous des maudits. Mépris des chefs pour le peuple. C'est aussi dans ce cadre et dans ce contexte que je vous ai lu la parabole qu'on appelle du pharisien et du publicain, du collecteur d'impôts. Jésus a dit cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient elles-mêmes qu'elles étaient justes et qui affichaient du mépris pour les autres. Qui est justifié devant Dieu? Jésus l'a dit clairement. C'est celui qui a reconnu qu'il avait besoin du pardon de Dieu. C'est lui qui est rentré justifié. Ce n'est pas celui qui se glorifiait de ne pas être comme tous les autres, y compris comme ce collecteur d'impôts qui était là. La lettre de Paul aux Romains, nous avons un chapitre particulier, le 14e, qui décrit différentes positions des chrétiens de l'époque vis-à-vis, par exemple, des viandes sacrifiées aux idoles. Certains considéraient que les idoles, ce n'était rien, et qu'ils pouvaient s'accorder la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et d'autres, parce que ça faisait moins longtemps, probablement, qu'ils avaient été eux-mêmes dans cette position d'adorer les idoles et de leur faire des sacrifices, certains considéraient les idoles encore comme ayant une certaine importance et s'abstenaient de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Romains, au chapitre 14, dit aux uns et aux autres que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Et en relisant ces textes, je me suis dit, quand même, c'est dans une église, c'est à des chrétiens. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir du mépris ou qu'on puisse avoir un tel esprit de jugement dans l'église? Ça peut arriver. Ça peut arriver puisque c'est là. C'est possible. Nous sommes donc, me semble-t-il, ici encore une fois, appelés à faire un vrai retour sur nous-mêmes, à bien considérer notre fonctionnement, nos actes, nos paroles, parce que nous avons des différences. Ça, c'est normal, c'est humain. Sur certains points, dans certaines conditions, sur certaines pratiques, certaines manières de faire, nous avons des différences. Je dis simplement, c'est normal, mais attention au processus qui fait que de simples différences de point de vue, d'appréciation, de sensibilité, de raisonnement, de comportement, on puisse parfois dériver vers des désaccords qui prennent de l'importance, des désapprobations qui deviennent plus graves, plus sérieux, des agacements et des contrariétés qui peuvent devenir des disputes, des rejets, du mépris, de la médisance ou du dénigrement. Alors, je vous rassure tout de suite, ne cherchez pas s'il se passe quelque chose de grave dans l'Église et que je suis en train de vous raconter quelque chose pour prévenir une crise. Ce n'est pas ça du tout. C'est dans le contexte général. Et je dis, il vaut mieux y réfléchir avant. Et au contraire, alors si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de ce que je pense, c'est que nous avons le privilège et la grâce de vivre dans la paix et dans l'amitié fraternelle au sein de l'Église, et j'en suis profondément reconnaissant. Mais voilà, le contexte m'a amené à évoquer un peu ces réalités. Donc, l'enseignement du Nouveau Testament est bien entendu un retour au respect mutuel, au respect comme valeur fondamentale dans les relations humaines. L'apôtre Pierre dit « respecter ou honorer tout le monde ». Tout le monde. Ou bien, formulé d'une autre façon, « témoigner à tout être humain le respect auquel il a droit ». Et l'apôtre Jacques dit « si vous avez le cœur plein d'une amère jalousie, et si vous êtes animé d'un esprit querelleur ou d'un esprit de rivalité, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Romains 12. « Ayez une égale considération les uns pour les autres. » Matthieu 18. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Et puis, il y a ce chapitre particulier que nous trouvons au début de la lettre de Paul, du chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains, où il nous est dit « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, respectez les autorités, soyez soumis aux autorités, priez pour les autorités. » Et nous devons aussi entendre cette parole et la mettre en pratique. Et je voudrais juste rappeler que, du point de vue historique, lorsque l'apôtre Paul écrivait ces paroles dans sa lettre aux Romains, celui qui était l'empereur de l'Empire romain qui avait le pouvoir en Israël à cette époque, c'était Néron. Rien que ça. Alors, ce n'est pas mon sujet ce matin d'aborder avec toutes les entrées et les considérations ce respect des autorités qui est quand même un principe basique dans l'Écriture, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je voudrais juste dire que dans ce passage, il est rappelé que les autorités, le principe et la réalité des autorités, c'est une institution du Créateur, de ce que Dieu a voulu pour les êtres humains, afin de faire que la société soit organisée et vivable, et que ceux qui sont en autorité et en pouvoir valorisent le bien et condamnent le mal. C'est pour cela qu'ils sont en place. Et quand ils ne pratiquent pas cela, l'apôtre Paul lui-même, à un moment donné, a rappelé ceux qui exerçaient l'autorité à ce respect de ce qui est bon et de ce qui est juste. Et puis, une dernière étape dans notre inventaire, dans notre parcours biblique. Nous avons vu que l'intention du Créateur, c'était le respect, que la dégradation que le péché a entraînée dans le cœur humain, c'était le mépris. Nous venons de voir que par la grâce et l'œuvre de Dieu dans le cœur de ceux qui se donnent à lui, la possibilité de retrouver le respect, c'est-à-dire l'intention initiale de Dieu, est retrouvée et donnée. Mais dans la grâce qui est en Jésus-Christ, il y a un pas de plus que simplement le respect des autres. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce même texte des Romains ? D'ailleurs, nous allons le lire parce qu'il constitue une des choses essentielles que nous devons réapprendre à considérer. Je lis dans donc la lettre de Paul aux Romains au chapitre 14. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Ça, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Et maintenant, dans la même lettre de Paul aux Romains, je reviens un peu avant, au chapitre 12, et je lis à partir du verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit. Soyez bouillant. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas le mal. Dans une autre traduction, c'est bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et ça, c'est l'étape supérieure de notre démarche dans la foi et dans la confiance en Dieu. Il s'agit non seulement du respect mutuel, mais il s'agit de bénir ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous font du mal. Partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent, ayez une égale considération les uns pour les autres, sans avoir le goût des grandeurs. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. La visée est haute. Le propos est élevé. Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Qui est suffisant pour ces choses? Le Seigneur nous donne d'avancer dans cette voie. Le Seigneur nous donne d'avoir cet objectif dans l'excellence des relations humaines. Et le Seigneur nous permet, ce faisant, d'être témoins dans notre génération. Dans notre génération qui a bien besoin d'apprendre le respect mutuel, la considération, l'écoute, la possibilité de vivre ensemble avec des avis différents. Je conclus tout à fait en relisant cette parole. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, avait voulu autrefois Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Restons quelques instants dans le silence et dans la méditation.